Le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'heure des explications pour Didier Raoult, l'infectiologue figure de la crise Covid, convoqué aujourd'hui devant l'organe disciplinaire de l'Ordre des médecins. C'est notamment sa promotion permanente de l'hydroxychloroquine qui lui est reprochée, les enjeux de l'audience au début de ce journal. Face à la reprise de l'épidémie ces derniers jours, l'exécutif s'interroge, comment communiquer sans alarmer? À l'approche de la présidentielle, la donne a changé, vous l'entendez. Il y a 3 ans, jour pour jour, la catastrophe de la rue d'Aubagne à Marseille. 8 morts dans l'effondrement de 2 immeubles du centre-ville. Où en est aujourd'hui la lutte contre l'habitat insalubre? On fait le point. Au sommaire aussi, des sans-papiers qui s'estiment floués en Belgique et des montagnards au départ de la Transat Jacques Vabre ce week-end.
À 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux sur la pauvreté en France avant et après le Covid. Les derniers chiffres de l'INSEE viennent d'être publiés.
France Inter.
Il va devoir s'expliquer Alexis sur son attitude pendant la crise sanitaire.
Et cette année 2020 qui en a fait soudainement un personnage public, Didier Raoult est attendu à Bordeaux aujourd'hui où il doit être entendu par d'autres médecins, la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre de Nouvelle-Aquitaine, car le dossier a été dépaysé. Cela fait suite à plusieurs plaintes déposées contre le professeur marseillais pour entorse au code de déontologie pendant l'épidémie de Covid. Alice Cachaner.
Ce qui est reproché au professeur Raoult, c'est notamment son manque de prudence dans la promotion de l'hydroxychloroquine pour guérir de la Covid-19. Une communication jugée intempestive, une attitude publicitaire que certaines sociétés de médecins assimilent à du charlatanisme. Pour l'avocat du professeur marseillais, ces plaintes posent la question du débat scientifique. Maître Fabrice Divisio.
Il a dit que la chloroquine était un traitement efficace, c'est vrai. Alors il s'exprimait avec ce qu'il était, il s'est exprimé avec ce qu'il pensait être la vérité au moment où il l'a exprimé. S'il faut faire le procès, faire le procès de chacun, d'autant que sur la chloroquine. La position de l'ordre est intéressante. L'ordre dit, mais la chloroquine ne fonctionne pas. D'accord ? Qui le dit ? Les autorités sanitaires. Oui, mais moi je vous fournis une 20aine d'études qui vous disent que la chloroquine fonctionne. Ok, donc c'est le politique qui fait le scientifique aujourd'hui. C'est ça qu'on en retient.
L'infectiologue est également mis en cause pour avoir exposé ses patients à des risques injustifiés ou encore pour avoir dénigré certains médecins. La décision de la chambre disciplinaire ne sera pas rendue avant 3 semaines, 1 mois. En cas de sanction, Didier Raoult aura la possibilité de faire appel. Un appel suspensif qui lui permettrait donc de poursuivre ses activités.
Ces sanctions, elles peuvent aller du simple avertissement à la radiation. De son côté, le professeur marseillais a déposé une plainte contre le président du Conseil national de l'Ordre des médecins pour harcèlement. Didier Raoult s'explique, au moment où la circulation du virus reprend de la vigueur en France, pas encore de 5e vague, mais une remontée des cas assez nette, l'Assemblée nationale devrait adopter définitivement aujourd'hui la dernière mouture du projet de loi vigilance sanitaire qui autorise le recours au pass jusqu'en juillet prochain. Quant à l'exécutif, il cherche le bon ton à adopter dans sa communication. Comment relancer la campagne pour la 3e dose de vaccin sans renouer avec les discours alarmistes? Voilà l'équation, Simon Le Baron.
Bien, mais peu mieux faire, admet un proche d'Olivier Véran. Sur les près de 7 millions de Français éligibles au rappel vaccinal, ils sont un peu plus de 3 millions à l'avoir fait, selon les chiffres du ministère de la Santé. Il y a quelques mois, l'exécutif n'aurait pas hésité à dramatiser pour relancer la machine. Mais à 6 mois de la présidentielle, il s'agit de ne pas brusquer les Français. Et surtout, tempère un conseiller, on est encore loin d'une 5e vague. Emmanuel Macron lui-même a d'ailleurs laissé tomber les gestes barrières lors de ses bains de foule et préfère laisser au ministre les appels à la vigilance. Jean Castex dans un service de réanimation ce matin à Montpellier. Gabriel Attal lui aussi en déplacement pour promouvoir la 3e dose. Le discours reste mesuré, les mots choisis. La hausse des contaminations est contenue, dit le porte-parole du gouvernement. Ce qui n'empêche pas l'exécutif d'envisager sérieusement de nouvelles mesures. Faut-il conditionner le pass sanitaire à l'injection d'une dose de rappel? La question sera sur la table du Conseil de défense sanitaire mardi prochain.
Simon Le Baron. Enfin, en Polynésie française, le vice-président du gouvernement local est démis de ses fonctions pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid. Il n'est pas le seul. 57% seulement des Polynésiens ont reçu les 2 doses, alors qu'une loi locale sur l'obligation vaccinale pour toutes les personnes en contact avec du public doit entrer en vigueur fin décembre après déjà 2 reports.
Un nouveau drame de l'immigration à Calais. Il est 7h35.
C'était pas le premier cette semaine. Un migrant est mort hier soir percuté par un TER. 3 autres sont blessés. Laissé
dont l'un grièvement. Ces dernières 48 heures, deux autres migrants ont été retrouvés morts en mer et sur la plage dans le Calaisis. Un peu plus au nord, en Belgique, des sans-papiers crient à la trahison. Cet été, ils étaient près de 500 à faire la grève de la faim et à occuper une église de Bruxelles pour réclamer d'être régularisés. Sous la pression, le gouvernement belge avait fini par promettre la régularisation de certains d'entre eux, les plus intégrés. Mais trois mois plus tard, ce sont des refus qui tombent ces derniers jours. Et au sein de l'église, toujours occupée à Bruxelles, c'est la consternation. Reportage Angélique Bois.
Je l'ai su la semaine passée, le jeudi.
Les poings serrés au fond des poches de son blouson, Mohamed, marocain de 29 ans, n'en revient toujours pas. La voix tremble. Après 11 ans passés en Belgique, dont 6 comme étudiant et plusieurs années de travail légal dans une maison de santé, sa demande de régularisation vient d'être refusée.
C'est incompréhensible, madame, pour moi. Je crois que j'ai fait preuve d'intégration, que ce soit sociale, que ce soit économique. Et j'ai le droit de rêver, de faire partie de cette communauté, de faire partie de cette société. C'est incompréhensible.
Mohamed aurait dû être régularisé, affirme Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne. Avec d'autres, il avait négocié cet été la suspension de la grève de la faim en échange d'engagements précis, dit-il, de la part du gouvernement. Il estime avoir été trahi.
Même les dossiers les plus bétons, des personnes présentes sur le territoire depuis 12 ans, avec toute une série d'éléments d'intégration, de preuves qui parlent plusieurs langues, voire deux langues nationales, plus encore l'anglais, etc., sont balayés d'un revers de la main. Ça ne présage rien de bon pour la suite.
Dans l'église, toujours occupée, sur les visages, l'angoisse se mêle à la colère. Certains envisagent de reprendre la grève de la faim. Les bénévoles qui les entourent espèrent que le gouvernement de coalition, divisé sur cette question, permettra de l'éviter. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Six jours après l'accident, l'automobiliste touché par le tir d'un chasseur alors qu'il circulait samedi entre Rennes et Nantes est mort hier soir à l'hôpital. Il avait 67 ans. La justice requalifie donc la mise en examen du chasseur. Il est désormais poursuivi pour homicide involontaire. 4 mois de prison avec sursis requis contre le policier auteur d'injures racistes en avril 2020. C'était lors d'une interpellation en Seine-Saint-Denis. Avec ses collègues, l'agent venait de récupérer un jeune Égyptien qui s'était jeté dans la Seine et il avait prononcé ces mots. Un bico comme ça, ça ne nage pas. Le procureur demande donc 4 mois avec sursis et 1000 euros d'amende. Décision du tribunal attendue en janvier. C'était un lundi matin, le 5 novembre 2018. Il est 9h05 ce jour-là, quand deux immeubles s'écroulent au 63 et 65 de la rue d'Aubagne, au cœur d'un quartier populaire de Marseille. 8 de leurs habitants n'y survivront pas. 3 ans après, jour pour jour, où en est-on de la lutte contre l'habitat indigne marseillais? La mairie chiffre à 40 000 le nombre de logements concernés, mais seuls 20 immeubles en péril ont déjà vu les travaux engagés, comme dans ce bâtiment du 3e arrondissement qu'a pu visiter Céline Autain.
Pour rentrer, il faut un casque de travaux, de bonnes chaussures pour escalader les gravats et surtout ne pas rester trop longtemps sous les toits et balcons instables.
Vous avez de la rouille partout, vous avez des câbles dont vous connaissez assez peu la provenance, des branchements sauvages. Je crois qu'il reste 1 cm de fer qui tient un mur en béton, donc ça peut s'effondrer à tout moment.
Anthony Crémeillère est maire du 3e arrondissement. L'immeuble qu'il a devant lui n'est pas un cas isolé dans son secteur.
C'est le cas dans toute la rue en réalité, c'est le cas dans tout le quartier, surtout la butte Saint-Maurent.
Dans les 100 mètres, 6 autres immeubles de ce genre et rien que pour cette adresse, 70 000 euros de mise en sécurité que supervise Christophe Utiriag pour la mairie.
Toiture, désencombrement et infiltration d'eau. Mon travail ne consiste à faire que la structure du bâtiment. Et c'est pas nous qui allons reprendre les placos, l'électricité, la plomberie.
Car après ces travaux d'urgence, la mairie passe la main au propriétaire, souligne Patrick Amicot, adjoint en charge au logement.
La ville ne va pas réhabiliter la totalité des immeubles, mais les mettre en sécurité pour que les occupants qui ont été évacués, parce que de toute façon ces immeubles sont sur des interdictions d'habiter, puissent revenir après que les propriétaires et fait eux-mêmes la réhabilitation de leur bâtiment.
En ce moment, 1400 habitants attendent de pouvoir rentrer chez eux.
Le reportage France Bleu Provence de Céline Autain, 3 ans après l'effondrement de ces immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille. Du vélo à 30 euros à la Lamborghini estimée 150 000, en passant par des bijoux ou des vins prestigieux, plus de 300 objets de valeur saisis par la justice sont proposés aux enchères aujourd'hui à Paris, au ministère de l'économie. Ces biens ont été confisqués, par exemple, lors d'affaires de blanchiment d'argent sale ou de trafic de drogue. Le produit de la vente servira notamment à indemniser les victimes. À la COP26 de Glasgow, c'est le jour des jeunes. Ils vont manifester aujourd'hui dans les rues de la ville écossaise, en présence de Greta Thunberg. L'adolescente suédoise juge sévèrement les premiers engagements pris depuis le début de la conférence climat. Un festival de greenwashing des pays riches, une célébration du blabla. Voilà ce qu'elle a tweeté ces dernières heures. La planète et ses éléments parfois déchaînés, ce sera le théâtre de la Transat Jacques Vabre. J-2 avant le grand départ du Havre pour cette traversée en double de l'Atlantique jusqu'en Martinique. 79 bateaux seront sur la ligne dimanche. Et parmi les marins engagés, certains ont grandi très loin de la mer. Cette année, 4 skippers viennent de la montagne et du milieu du ski. Portrait croisé avec Jérôme Val.
Il a été le maître du slalom. Il y a une décennie, le Croate Ivica Kostelić a même remporté le gros globe de cristal en ski. À 41 ans, le voilà au départ d'une transatlantique. Aurélien Ducrot, qui va s'élancer sur un bateau neuf, a fait le même chemin des pistes enneigées au grand large. C'était il y a 12 ans. Double champion du monde de freeride, il a même réussi le tour de force d'emmener avec lui ses partenaires de ski.
Forcément, ça prend un petit peu de temps parce que pour eux, c'est loin. Pour eux, c'est un autre monde et il faut petit à petit le découvrir. Et au final, les partenaires qui m'ont accompagné dans ma carrière de skieur continuent à me faire confiance dans cette carrière de marin. Donc c'est hyper chouette pour moi, c'est symbolique parce que ça fait partie de mon histoire.
La mer et la montagne comme une filiation naturelle selon Mathieu Crépel. Il a remporté 2 médailles d'or aux mondiaux de snowboard dans les années 2000 et pour la première fois il sera au départ d'une prestigieuse course à la voile.
C'est deux mondes qui se comprennent, qui sont sur deux opposés du cycle de l'eau, certains à la montagne, d'autres à l'océan. Mais cette notion de communion avec l'élément, mais en même temps d'être dans des éléments qui sont durs, qu'il faut aller chercher au plus profond de soi-même pour se prouver des choses. Donc il y a de grandes similitudes et les montagnards et les marins s'entendent très bien. Ouais.
Comme lui, Julia Vira, guide de haute montagne pendant 20 ans, veut réaliser son nouveau rêve, être sur un bateau à l'assaut de l'océan.
Jérôme Val, avant le départ de cette Transat Jacques Vabre, à retrouver aussi dès maintenant en images sur franceinter.fr. Puis un peu plus d'un an après avoir créé la surprise à Roland-Garros, Hugo Gaston impressionne de nouveau, cette fois au Masters 1000 de Paris-Bercy. Le jeune espoir du tennis français se qualifie pour les quarts en battant l'Espagnol Alcaraz en 2-7, 6-4, 7-5. Au prochain tour, dès aujourd'hui, gros morceau pour Gaston puisqu'il affrontera Medvedev, numéro 2 mondial.
Merci Alexis Morel. L'édito politique arrive sur un